Bonjour, donc en compagnie de Franck Giroux pour une multitude de séries, mais j'aimerais bien qu'il se présente lui-même pour voir un petit peu ce que ça peut donner en résumé.
Bonjour, je m'appelle Franck Giroux, je suis scénariste. Je suis dans le métier depuis très exactement 30 ans cette année, puisque ma première publication est parue dans un petit journal entre guillemets, puisqu'il était vendu quand même à 100 000 exemplaires à l'époque, ce qui ferait rêver aujourd'hui beaucoup de publications, qui s'appelait Amicop, qu'à partir de ce moment-là, j'ai travaillé pas mal dans la presse au départ, donc Amicop, Fripounet, Mikado, Spirou, Tintin. En 82, Louis Laguigne m'a un petit peu lancé dans la bande dessinée. C'est un personnage libertaire qui vivait dans les années 20 et 30 et qui, en tout, a vécu plus d'une vingtaine d'aventures. Il y a eu 13 albums de la série mère, plus 8 albums de la jeunesse, donc ça fait 21 albums. Ensuite, j'ai fait plusieurs albums à droite à gauche, des one-shots, des diptyques, notamment avec mon ami Christian Lax, que vous venez de voir. J'ai lancé en 2001 une saga qui a fait date dans le monde de l'édition, qui s'appelle le Décalogue, donc 10 tomes qui sont parus en 2 ans. J'ai lancé une collection chez Dupuis qui s'appelle Secret, sur les secrets de famille, dont je suis scénariste principal, bien que de temps à autre je m'associe avec un autre partenaire pour faire du co-scénario. J'ai lancé un autre projet qui s'appelle Quintet, qui est maintenant terminé. Concept aussi assez inédit quand je l'ai proposé. Voilà, donc actuellement je prépare un très gros projet qui s'appelle Destin pour les éditions Glénat à paraître à la fin de l'année 2009.
Vous avez été vendu par Lucien Rollin, en fait, qui a déjà fait de la pub sur nos ondes pour Destin, donc on attend d'avoir un peu plus d'informations. Donc moi, je vais revenir sur le Décalogue, parce que c'était quand même... c'est une série qui a, disons, lancé un concept. Bon, je me suis laissé entendre dire que tous les personnages avaient toute leur généalogie, bon, ça c'est sûr, mais toute leur histoire décrite par vous. Que vous connaissez absolument tous les détails. Je voulais savoir, déjà, il y a deux branches là qui sont issues du Décalogue, qui sont les Fleurie Nadal et puis le Légataire. Laquelle des deux vous considérez le plus comme une suite du Décalogue?
Disons que d'abord, ce qui semble vous étonner là, c'est une pratique systématique chez moi et pas uniquement dans le Décalogue. Quand j'écris une histoire, je commence par bâtir la trame, à construire le synopsis, et avant d'attaquer le scénario lui-même, à savoir la mise en scène, dialogue, découpage, je rédige la fiche biographique de chacun de mes personnages de façon à ce qu'ils aient une cohérence non seulement à mes yeux, mais aux yeux du dessinateur. Et à la fin de cette biographie, je raconte, c'est-à-dire toute leur vie, de leur naissance jusqu'à leur apparition dans l'album. C'est-à-dire que les renseignements qui sont contenus dans cette fiche biographique sont totalement inconnus du lecteur. Mais ils donnent sa cohérence au personnage. Le personnage cesse d'être le rouage d'une mécanique, un élément d'une intrigue, aussi bien construite soit-elle, pour devenir un personnage de chair et de sang. Vous voyez, c'est la grosse différence entre la bande dessinée de l'époque de Hergé, Jacobs, etc., qui étaient de grands raconteurs d'histoire, de grands bâtisseurs d'intrigues, très habiles, mais dont les personnages n'avaient, sauf exception, que très très peu de chair. Là, ce sont vraiment des personnages qui ont une dimension égale à celle qu'on peut rencontrer au cinéma, dans la littérature, au théâtre ou autre. Évidemment, ayant bâti ces fiches comme d'habitude sur le Décalogue, je me suis retrouvé avec des dizaines et des dizaines de vies dont le lecteur ne connaissait rien. Et en outre, il y avait des espaces de 10, 20, 30, 40 ans entre chaque album, les personnages principaux disparaissaient et le lecteur ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Et donc ça m'a intéressé de raconter ces tranches de vie occultées et de répondre à des questions que pouvait se poser le public, par exemple dans le tome 5 du Décalogue, qui commence par le génocide arménien. On voit une longue colonne de déportés, tout d'un coup attaqués par des Kurdes, et la sœur du personnage principal, Missak Zakharian, la petite Anaïde est enlevée par des Kurdes et on ne sait pas ce qu'elle devient. On ne sait pas si Missak la recherche après, s'il la retrouve, s'il la retrouve pas. Donc je raconte cette histoire-là qui est devenue Anaïde. Dans le tome 8 du décalogue que vous avez, là, c'est un huis clos extrêmement angoissant dans une maison qui abrite toute la famille, notamment deux frères dont l'un semble férocement haïr l'autre, puisqu'on découvre à la fin ce qu'il lui fait vraiment. Et on se dit, mais pourquoi cette haine? Et donc la haine est expliquée par un événement qui a déchiré la fratrie 15 ans plus tôt, et cet événement est décrit non pas dans le décalogue, mais dans les Florinadas à travers Ninon. Même chose dans le tome 7 du décalogue, entre les 45 premières pages et les 10 dernières, Benjamin Fleury se retrouve en Égypte, mais on ne sait pas ce qu'il fait là, en train de bâtir le canal de Suez. Qu'est-ce qu'il a amené, à part sa passion pour l'Égypte de travers Naïque, qu'est-ce qu'il a amené dans ce pays-là? Et c'est ce que je raconte dans Benjamin. Les Florinadas seraient plutôt des compléments ponctuels, comblant certains trous dans le décalogue. Alors que Le Légataire, c'est un rebondissement et qui suit chronologiquement la fin du cycle du décalogue. Le décalogue se termine, quand on le lit dans l'ordre chronologique, à la fin du tome 1, et le rendez-vous de Glasgow, le premier tome du Légataire, suit immédiatement le tome 1 du décalogue.
Est-ce qu'on aura la solution, en fait, de toute cette trame autour de Naïque à la fin du Légataire, ou est-ce que ça amène encore des suites de l'histoire?
Je pense que la solution, on l'a déjà à l'heure actuelle. On en est le tome 3 est paru, le tome 4 va mettre droite, mais je crois que dès le tome 2 du Légataire, on a la solution sur Naïque. Alors, simplement, le Légataire, contrairement au Décalogue, ce n'est pas un ensemble de 5 albums indépendants, c'est un tout qui est illisible si on extrait un album de son contexte, et c'est un tout qui fait 5 albums, donc ce n'est pas une histoire à rallonge. Le synopsis a été écrit dès le départ pour 5 tomes, il a été écrit en entier. Là, le tome 4 va paraître dans le mois prochain, je pense. Le tome 5 paraîtra à la fin de l'année ou en janvier de 2010, et clôturera définitivement la saga du Légataire.
Est-ce que pour vous, il faut toujours lire le tome 8 donc, du Décalogue, Naïque, en premier, ou est-ce qu'il faut prendre l'ordre chronologique ou se laisser aller? Parce que bon, les gens ne savent pas forcément dans quel sens le prendre maintenant qu'il est entièrement publié.
Je ne vois pas bien pourquoi il faudrait commencer par le tome 8.
Hein. C'est marqué comme ça, en fait, par l'éditeur, en fait. Et Lucien Rollin nous a dit que lui, c'était à lire soit du début à la fin, soit à l'envers, en fait.
Non, on peut le lire du 1 au 10, c'est ce qui est préconisé, c'est ça qui est préconisé par l'éditeur et par l'auteur, sinon je n'aurais pas numéroté de 1 au 10, donc je souhaite que le lecteur le lise du 1 au 10. Par contre, une fois qu'il l'a lu du 1 au 10, il peut le relire à l'envers et il a une autre vision, puisque chaque tome du décalogue est une histoire totalement indépendante. Vous lisez, par exemple, si vous voulez, puisque vous avez le tome 8 sous les yeux, vous lisez le tome 8, vous vous demandez pourquoi il y a un 8 dessus, parce que l'histoire commence, elle se termine, c'est fini. Donc, au-delà de chaque histoire indépendante, on a un lien qui réunit, bien évidemment, tous ces albums, un lien qu'on découvre à travers... Donc ce livre, hein, Naïque, mais si on le lit à l'envers, du 10 au 1, je dirais presque du 9 au 1, parce que le 10 est un petit peu à part, mais si vous le lisez à l'envers, vous découvrez qu'il y a un lien encore plus fort que le livre qui unit les personnages, ce qui nous amène après, c'est au Florinadal. Non, simplement, le 8, c'est tout... Je dis, s'il avait su que ça pouvait prêter à confusion, je ne l'aurais pas mis en exergue. Non, je dis simplement que c'est l'histoire qui est développée dans le 8 qui m'a donné l'idée du décalogue. Mais pas, quand vous écrivez un album, quand vous avez l'idée d'un album, vous n'exposez pas cette idée en premier, quel que soit l'album. Donc vous n'allez pas demander au lecteur de commencer par la page 43, tout simplement parce qu'il y a l'idée que vous avez eue en premier, page 43. Donc non, le 8, il est à lire au milieu de la saga, bien sûr.
Non, parce qu'on est plusieurs à l'avoir lu, en fait, en commençant par le 8. Ouais, ça donne un plus, en fait, parce que effectivement le tome est terminé, hein, mais il y a vraiment tout le mystère qui est installé, et après relire dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment intéressant d'avoir eu l'éclairage du vide finalement.
Toutes les solutions sont possibles, hein. C'est ce qui fait la richesse aussi du décalogue, c'est qu'on peut le lire dans n'importe quel sens, hein. Vous pouvez lire le 8, le 2, puis le 3, puis le 9, etc.
Le choix d'avoir plein de dessinateurs autour de vous, c'était un choix temporel ou c'était vraiment pour donner quelque chose de différent à cette série?
On a deux cas de figure très différents entre Quintet, par exemple, et le Décalogue. Dans le Décalogue, c'est un choix purement éditorial. Il s'agit de 10 albums. Il faut savoir que 10 albums traités sur un mode réaliste, ça signifie 12 ans de travail. Parce qu'il faut un an pour faire un album. Si on compte un mois de vacances entre chaque pour le dessinateur, ça nous amène environ à 12 ans. Tenir le lecteur en haleine sur 12 ans, c'est quelque chose c'est un pari extrêmement risqué, dans la mesure où c'est aussi une saga qui se tient, et dans la mesure où on introduit dès le tome 1 un mystère, c'est-à-dire pas un seul mystère, mais toute une série de mystères autour de ce livre. Demander au lecteur d'attendre 12 ans pour avoir la solution à tous ces mystères, c'était beaucoup trop. Parallèlement, j'ai beaucoup investi d'énergie et d'enthousiasme dans le décalogue, mais je ne suis pas capable de garder mon enthousiasme et mon énergie sur une même histoire pendant 10 ans. Même pour moi, il fallait que cette histoire se termine assez vite. Et la seule façon de la mener à terme rapidement, c'était de recourir à des dessinateurs différents. Ça n'avait aucune incidence sur la qualité de l'ensemble, tout simplement parce que, comme nous venons de le dire, chaque album est totalement indépendant. Il se déroule dans des pays différents, à des époques différentes, avec des personnages différents, et les thèmes sont différents. Même s'il y a ce thème commun qui traverse toute la saga, on a le thème de la recherche d'identité dans le tome 6, on a le thème de la raison d'état dans le tome 10, on a le thème de la création, du génie, du talent, de l'inspiration dans le tome 1 et dans le tome 8, on a un thème plus historique avec le rôle de l'Église pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le tome 4, etc. Donc, dans la mesure où chaque tonalité des 10 tomes était différente, il n'y avait aucune raison de le confier à un seul dessinateur. Alors, dans Quintet, le choix est différent parce que il relève de motivations différentes, parce que 5 tomes, à la limite, c'est faisable dans la mesure où on attend un an que les deux premiers soient finis, on peut sortir l'ensemble de la saga en 3 ans ou 4 ans, c'est facilement concevable éditorialement. Mais dans la mesure où un des principes de Quintet, c'est la divergence des points de vue, il me paraissait vital de représenter les mêmes choses, les mêmes événements, les mêmes personnages, représentés à travers la vision et le prisme de dessinateurs différents. Donc là, ce n'est pas pour des raisons éditoriales, hein, Quintet, c'est un choix narratif.
Et ça vous plaît de travailler avec plein d'auteurs différents comme ça? Ou est-ce que vous aimez aussi avoir votre auteur qui va vous suivre sur toute l'histoire?
Les deux sont plaisants quand on a noué des liens de confiance avec un auteur et qu'on a mis en place une complicité très forte, il est tentant de continuer à travailler avec lui. Je vous parlais tout à l'heure de Christian, qui est devenu Christian Lax, qui est devenu un ami. On a fait 5 albums ensemble et c'est vrai que c'était extrêmement plaisant. Avec Joseph, on s'est très bien entendu sur le tome 1 du Décalogue et c'est essentiellement pour continuer à travailler avec Joseph que j'ai créé aussi ce rebondissement qu'est le légataire. Par contre, travailler avec beaucoup de dessinateurs nouveaux, ça me permet précisément de multiplier les chances de tomber sur un autre partenaire idéal. C'est l'aventure du Décalogue qui m'a permis de rencontrer Joseph. C'est l'aventure de Quintet qui m'a permis de rencontrer Steve Cusor, avec qui j'ai noué des liens très forts. Donc, chaque album, chaque écriture d'album et fabrication est une aventure différente. Il y a autant de cas de figure qu'il y a de couples. Donc c'est quelque chose d'agréable. Oui.
Un personnage qui vous tient particulièrement à cœur dans toute cette famille
Alors, c'est un personnage qui me tient à cœur. Il n'appartient pas forcément à la famille Fleury Nadal. Lui, c'est le prêtre du tome 4 du Décalogue. J'ai eu beaucoup de plaisir à bâtir ce personnage de religieux, ce personnage qui est à la fois romantique et faible, qui est à la fois loyal et veule, personnage très, très complexe et que j'ai trouvé très, très attachant. Et c'était la première fois, encore une fois, que je bâtissais un personnage un religieux et j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour Davor Stimac.
Et une époque qui était plus facile à décrire ou plus intéressante à décrire pour vous ?
Bon, l'époque, les époques les plus faciles, c'est bien évidemment l'époque contemporaine. C'est-à-dire, pour le tome 1 ou le tome 2, je n'ai aucune recherche documentaire à faire. Si ce n'est que, on s'est payé avec Joseph un voyage à Glasgow, puisque l'histoire se passe à Glasgow, l'histoire du tome 1 du Décalogue et du tome 1 du Légataire. Donc, il a suffi d'aller en Écosse, de prendre des photos. Évidemment, quand il s'agit de reconstituer Médine au 7e siècle, ça c'est une autre paire de manches. Et encore que on a tellement peu de choses que Franz s'est permis des libertés, mais des libertés bienvenues, puisque l'Arabie médiévale qu'il a campée est une Arabie tout à fait crédible. Non, je dirais qu'il n'y a pas de... Je ne fais pas œuvre d'historien, je raconte des histoires, donc je ne me prends pas la tête non plus pendant des mois sur une reconstitution. Il suffit que ce soit crédible, que je ne raconte pas d'inepties. Et après, ce qui m'intéresse, ce sont les rapports entre les personnages, le déroulement de l'intrigue, et non pas l'authenticité absolue des paysages que je vais décrire.
Alors, venons-en au projet maintenant. On attend avec impatience que vous nous parliez un peu plus de votre série à venir, là, parce que ça paraît bien intéressant et bien nouveau aussi comme concept.
Oui, j'essaie de garder toujours une longueur d'avance. Puis bon, le décalogue a été amplement imité par la suite, ce qui me gêne en aucune façon. Je considère que c'est plutôt un hommage au fait d'avoir créé quelque chose de nouveau. Donc là, effectivement, plutôt que de me répéter, j'ai essayé d'aller encore un petit peu plus loin. J'ai travaillé dans le décalogue, quintet, secret, avec plusieurs dessinateurs, mais j'avais eu quelques expériences de co-scénario, mais je n'avais pas vraiment travaillé avec une équipe de scénaristes. Et c'est cette envie qui m'a poussé à lancer Destin. Donc c'est un concept que j'ai créé, que j'aurais pu rédiger moi-même, ça aurait été infiniment plus simple. Mais j'ai préféré... justement faire entrer plusieurs scénaristes dans le projet, de façon à avoir donc c'est cette espèce d'émulation de travail que j'ai pu avoir ponctuellement à côté dans des projets de moindre envergure. Donc Destin commence par un album écrit sous une forme relativement classique. C'est une histoire d'amour sur fond de polar un petit peu dramatique, et dans l'héroïne, arrivée à la fin de l'histoire, se trouve placée face à un effroyable dilemme. Elle a un choix totalement cornélien. Si elle fait quelque chose, sa vie va être bouleversée de façon tragique. Et si elle ne le fait pas, sa vie va être bouleversée de façon tout aussi tragique, mais d'une autre manière. Et le lecteur, s'il est entré en empathie avec Hélène, donc cette héroïne, va se dire lui-même, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si je m'étais retrouvé à sa place ? C'est terrifiant, cette histoire. Et au lieu de donner une seule réponse, je donne deux réponses. C'est-à-dire que la fiction permet cette magie extraordinaire de montrer à l'individu ce qu'aurait été sa vie s'il avait fait un autre choix. On a tous fait dans notre existence des choix fondamentaux qui ont orienté notre vie d'un côté plutôt que de l'autre. Et cycliquement, on se demande, tiens, qu'est-ce que je serais aujourd'hui, qu'est-ce que je serais devenu si au lieu d'avoir pris ce chemin, si au lieu d'avoir fait ce choix, au lieu d'avoir dit oui, j'avais dit non, etc. Et on ne le saura jamais. Mais grâce à la magie de la fiction, on le sait, et on a deux tomes 2. Et à la fin de ces deux tomes 2, de nouveau se pose un choix cornélien, et on a de nouveau deux possibilités. Et afin de ne pas démultiplier cette arborescence à l'infini, à la fin des tomes 3, par une série d'astuces scénaristiques, l'arborescence s'inverse, et progressivement, on s'achemine vers une chute finale unique. Donc, quel que soit le chemin pris par l'héroïne, il y a un seul dernier tome, mais il ne s'agit pas pour autant d'une prise de position en faveur de la prédestination, de même qu'il ne s'agit pas d'une prise de position en faveur du libre arbitre. C'est une astuce scénaristique qui permet d'arriver à un dernier tome. Je ne peux pas vous dire laquelle, évidemment, puisqu'elle fait partie de l'intérêt de ce dernier tome. Donc, les éditions Glénat distribueront une petite plaquette pour expliquer. Je vous la montrerai là tout à l'heure. C'est une fois qu'on voit le schéma, tout est parfaitement clair.
Date de sortie du premier tome ?
Fin 2009, donc novembre 2009.
Vous avez combien de scénaristes qui travaillent dessus? Parce qu'on a entendu les noms de Corbeyran et de Bonifay. Il y en a d'autres?
Bien sûr, oui. Il y a en tout, je travaille avec 12 scénaristes. J'ai écrit moi-même le premier et le dernier tome. J'ai rédigé les pitchs de chaque tome. Et par contre, chaque album est traité par un scénariste différent. Donc je vais vous donner je pense que je les connais par cœur, mais je vais reprendre. Fiche, il y a le premier. J'ai mêlé à la fois des grands noms de la bande dessinée et à la fois des vieux briscards, des étoiles montantes et j'ai deux ou trois jeunes scénaristes. Donc j'ai des gens aussi prestigieux que Pierre Christin, avec des vieux briscards comme Macchio, comme Bonifay, comme Rodolphe, comme Lapierre. Les étoiles montantes dont je vous parlais, c'était Mats et Chris. J'ai un écrivain célèbre chez Grasset, qui est traduit dans plusieurs pays, qui est un brillant écrivain, mais qui n'a fait jusqu'à présent que deux ou trois co-scénarios, et là c'est son premier scénario en solo, qui est Frédéric Richaud, et deux jeunes scénaristes qui ont fait deux ou trois albums jusqu'à présent, Virginie Grenner et Florent Germanet. Parmi les étoiles montantes, je vais citer Chris et Mats, il y a également Valérie Mangin, qui est déjà plus qu'une étoile montante. Elle doit avoir déjà une douzaine d'albums facilement à son compteur. Je sors ma petite plaquette pour voir si je n'ai oublié personne, sinon je vais m'attirer des ennemis. Donc Virginie Grenner, on l'a cité, Pierre Christin, Valérie Mangin, Eric Corbeyran, Chris, Rodolphe, Mats, Florent Germain, Philippe Bonifay, Denis Lapierre, Frédéric Richaud, Pierre Macchio, voilà.
Au niveau du délai de sortie, il y aura un tome tous les à peu près combien? C'est déjà prédéfini?
Bien sûr, je peux même vous donner les dates exactes. Hein. Le premier tome, les trois premiers tomes sortent en même temps pour bien montrer au lecteur le fonctionnement du système. Donc les trois premiers tomes sortent en novembre 2009. Ensuite, on aura une sortie toujours deux par deux hein, en mars 2010. Le dernier tome sortira en septembre 2011. Donc, 2 ans.
Tout est déjà écrit. Enfin, tout est déjà écrit. Vous avez les pitchs, on va dire, sur les histoires, c'est ce que vous nous disiez. Est-ce que vous vous laissez le droit de modifier 2-3 petites choses?
Non, un projet aussi pharaonique et aussi complexe ne peut pas se lancer. Je ne vous dirais pas que le premier tome sort en novembre 2011 si j'avais simplement les pitchs. Non, évidemment, tout est écrit. Tout est écrit, il y a eu déjà des réunions, tout a été écrit dans un premier temps, les synopsis ont été écrits. Ensuite, il y a eu un séminaire de tous les scénaristes pendant 2 jours à Barbizon pour comparer tous les scénarios pour les réécrire. Nous sommes repartis de Barbizon, chacun a réécrit son synopsis. Il y a eu une deuxième, ensuite je faisais la coordination via le mail entre chaque scénariste. Quand j'ai estimé que tout était d'aplomb, tout le monde a écrit ses scénarios. Après l'écriture des scénarios, on a eu un deuxième séminaire, donc on a comparé tous les scénarios. Les auteurs sont repartis réécrire leur scénario, y compris moi-même d'ailleurs. J'ai écrit une deuxième version totalement différente de la première. Et donc maintenant, oui, les scénarios sont écrits. Bien évidemment, c'est quand même... J'ai l'habitude de mener à terme des projets de façon sérieuse, donc je ne vous annoncerai pas une sortie à l'automne 2009 si je me contentais d'avoir 12 pitchs dans ma musette, hein, évidemment. Non seulement tout est écrit, mais les dessinateurs ont commencé à travailler. Les modèles sheets sont faits, puisqu'il y a également ce travail d'aller-retour se retrouve chez les dessinateurs également. Et donc les personnages ont été construits, les lieux dans lesquels vivent les personnages ont été construits.
Comment ça va se passer au niveau des dessinateurs du coup?
Donc, à part Michel Durand, avec qui je travaille, qui fera le premier et le dernier, chaque tome sera dessiné par un auteur différent. Là aussi, je vais mêler des grands noms et des jeunes dessinateurs talentueux.
C'est vous qui avez choisi les dessinateurs ou est-ce que les scénaristes de chaque tome a eu aussi son petit droit de regard?
Pour me simplifier le travail, j'aurais souhaité que tous les scénaristes arrivent avec un dessinateur, un bon dessinateur. Certains l'ont fait. Corbeyran, effectivement, est arrivé avec un dessinateur avec qui il avait déjà travaillé. Mais Rodolphe est arrivé avec un dessinateur, Bonifay également. Et pour le reste, c'est moi qui ai proposé des noms aux uns et aux autres, qui ai essayé de former les couples dans cette grande aventure qu'est Destin.
Quelque chose que vous souhaiteriez nous dire de plus?
Eh bien non, j'espère que les lecteurs qui m'ont suivi sur le Décalogue et sur Quintet me suivront avec le même plaisir sur Destin.
Merci beaucoup.
Merci à vous.